Surpris par la nuit. Après l'avant-garde. Les retombées de mai 68 signent le glas des rêves de liberté absolue. La transgression, l'utopie, le dépassement de l'art dans la vie s'achèvent dans les trajectoires brûlées, détruites. Le tournant des années 80 déroule ses tragédies, suicides, overdoses, folies, comme si une contre-révolution avait succédé à l'insurrection de mai. Des signes avant-coureurs avaient annoncé les impasses et les reniements de l'après des avant-gardes politiques et esthétiques. Une nouvelle figure d'artiste émerge, en forme de mutant, celle d'Andy Warhol. Il définit une posture pop ambivalente, au cœur même du système de la marchandise. Indécidable entre sa célébration et son blasphème. La critique sociale, politique, héritée du marxisme, se trouve prise au piège de la marginalité ou de la récupération. Au milieu des années 90, une autre génération reprend une relecture des avant-gardes à la lumière de la postmodernité. Années 80, les brûlures et la survie, la révolution révolue.
C'est à pied et avec le peuple de Paris qu'il va gravir cette rue qui le conduit au Panthéon. C'est le premier bien de foule du président de la République. Regardez.
Tu as recommencé à vivre sans que l'angoisse t'étreigne. Tu es tranquille. Tu crois que tu te relèves alors que tu t'accoutumes tout doucement à la médiocrité. Après les crises, il faut vite tout oublier, tout effacer. Comme la France après l'occupation, comme la France après 68. Te relève comme la France après 1968, mon amour.
François Mitterrand se dégage de la foule, deux roses à la main, il pénètre seul à l'intérieur du Panthéon.
Moi, je me suis marginalisé, exprès. Il faut accepter sa marginalité. Si vous arrivez à travailler, tout c'est d'arriver à monter ses films.
Un régime, démocratique, etc., etc. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere.
La culturation, l'homologation que le fascisme n'a pas réussi à obtenir absolument, le pouvoir d'aujourd'hui, celui de la société de consommation, a réussi parfaitement à l'obtenir. Le fascisme proposait un modèle réactionnaire et monumental, mais qui restait lettre morte. De nos jours, au contraire, l'adhésion au modèle imposé par le centre est totale et inconditionnelle. Pierre Paolo Pasolini.
Distantly the chains are falling with an anchor pulling here. The moments that are rolling in my ear.
Ce que j'essaie de saisir, c'est ce tournant dans l'histoire. Donc Pasolini est assassiné en 75. C'est la thèse en fait, du livre que vous avez publié de Jean-Jacques Schul, sur le fait qu'effectivement Fassbinder ne pouvait pas aller plus loin, Eustache ne pouvait pas aller plus loin. Il y a comme ça toute une série de gens qui vont plus ou moins se brûler. C'est-à-dire que ceux qui continuent le geste avant-gardiste, donc d'une sorte d'illimitation, ou ceux qui sont encore dans le dépassement, disons, ou la transgression, cannent en fait. Et vous, vous opérez quelque chose, donc vous êtes forcément conscient qu'il y a quelque chose dans le temps et dans l'histoire qui est en train de basculer à ce moment-là. Je note aussi que c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir qui est une bizarre inversion de 68.
Bon, vous jugez les dates Oui, vous avez raison, de façon très politique.
Philippe Solers.
Quand vous dites l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, avec cette cérémonie emphatique du Panthéon, avec la 9e symphonie, etc., et que j'entendais beaucoup de gens que je connaissais, mais qui n'étaient pas dans la confidence du temps, dire on a gagné, ça me paraissait extraordinairement erroné de leur part. On, de toute façon, hein, qu'est-ce que c'est ? À ce moment-là, il y a eu deux interprétations, celle paresseuse, si je peux dire, qui se raccordait au mythe de la gauche, qui enfin arrive au pouvoir, et on a vu ce qu'on a vu. La suite n'a pas manqué de vérité. En réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est un arraisonnement technique dans la société. Ce tournant technique, on l'a vu arriver, et je m'y étais, moi en tout cas personnellement, préparé avec la concentration très très tenace depuis déjà 7, 8 ans, 9 ans, de H et de Paradis. J'étais donc dans cet état-là de concentration extrême parce qu'il me semblait qu'allait se produire quelque chose qui mériterait la construction d'un système nerveux autre. Et donc cette expérimentation était pour moi très importante comme expérience physique. À partir de ce moment-là, j'ai compris que ce tournant allait en effet être désastreux pour la plupart de ceux qui continuaient, malgré tout, à se croire dans une marginalité subversive et révolutionnaire. Il m'a semblé que ce n'était pas révolutionnaire de penser cela, et que ce qui était révolutionnaire, c'était de prendre la mesure technique de ce qui allait se passer. Et c'est d'ailleurs le moment où j'ai commencé systématiquement à faire des enregistrements vidéo de la contre-télévision un peu partout, non seulement en France, mais pas seulement en France, en Italie ou ailleurs, ou à New York, pour m'entraîner à ce qui était en train d'avoir lieu, au point d'ailleurs de pouvoir disposer par la suite de mon corps dans le médiatique sans aucun problème, ni moral, qui est la faiblesse de la cervelle, comme a dit quelqu'un, ni d'embarras de parole. Et ce qui fait que, quand je vois que par exemple Debord lui-même, dans les années 90, quand il va rentrer chez Gallimard avec Jean-Jacques Pauvert, etc., commence à se tromper sur moi à ce point, en croyant que je suis dans le médiatique même, c'est-à-dire un jugement qui est celui du médiatique sur moi. Donc, ça fait sourire, vous comprenez. Et alors, à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose, parce que les réseaux de communication explosent, deviennent rigoureusement n'importe quoi ou à peu près, et qu'on tient le coup, on ne tient pas le coup par rapport à cette transformation technique, technologique, de la planète tout entière. Et on peut s'y glisser ou pas, tout en maintenant une indépendance absolue, c'est-à-dire qu'il faut être quand même là un peu apte à une schizophrénie productive, c'est-à-dire avoir au moins deux corps, une façon de vivre extrêmement précise et disciplinée, et en même temps que rien n'apparaisse et que tout puisse avoir l'air ludique, sans importance, etc. C'est un jugement très très négatif, tellement négatif sur la société qu'il n'a même plus besoin de s'exprimer comme négativité sociale. Tout ce qui est resté en position de réclamation, de revendication, de contestation sociale, était voué à la récupération absolument fatale.
C'est qu'à un moment, on se dit, mais est-ce que j'ai rêvé ? Enfin, est-ce que c'est moi qui déconne ? Et puis voilà, on parle à des gens, de temps en temps, rarement à mon goût, mais c'est sûrement de ma faute aussi.
Patrick Bouvet.
Et puis on se dit, non, je crois que... bon, voilà, il se trouve qu'il y a des gens qui ont rêvé la même chose que moi, en tout cas. Et des fois, j'en suis presque là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... on est tellement dans un truc mortifère, glamour, on est entouré de morts vivants, et ben une critique, j'allais dire une bonne critique, mais pas seulement une bonne critique, une critique qui lit vraiment un livre, et ben moi ça me fait tenir un mois de plus, quoi. C'est ça, quoi. Voilà. Donc j'ai besoin de temps en temps d'avoir des échos, ils deviennent c'est de plus en plus vital.
On ne peut plus leur faire confiance. Ils ont mis plusieurs fois notre santé mentale en jeu. Ils vont mettre notre vie en danger. Nous n'avons pas réussi à les semer. Nous n'avons pas réussi à trouver les issues de secours. Ils se laveront les mains de toute responsabilité. Ils diront que tout est pure invention. Je ne sais pas ce qui se passe ensuite.
La révolution, moi j'aime cette idée, hein, mais c'est plus un concept qui est... Enfin, d'ailleurs je dis concept, hein, je dis pas réalité. Mais c'est plus un concept qui est moteur aujourd'hui.
Christophe Fiat.
Parce que l'époque a changé, parce que maintenant c'est un terme aussi qui est devenu le terme de l'autre. Le président de la République, là, parlait à un moment de parti révolutionnaire, voilà. Donc après, bon, c'est aussi la vie des concepts, hein, mais celui-ci, il est quand même particulier, le concept de révolution. Moi, j'aime bien l'idée de révolte ou de lutte, enfin, aujourd'hui, voilà. Mais après, ça produit les mêmes effets, sinon qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les savoirs et les pratiques, elles sont locales et partiales. Enfin, elles sont plus générales et objectives. Mais peut-être que j'ai une perception romantique de la révolution, hein, comme une espèce de front uni, comme ça. En même temps, quand je dis ça, ça veut dire quelque chose aussi. Hein. C'était le cas de la Commune, il y a eu le Front populaire.
Et la Révolution française,
voilà, ouais,
on peut dire ça.
Et sans parler des révolutions qui ont vraiment eu lieu dans d'autres pays. Hein. Mais l'idée qui me paraît simple de vouloir transposer mon travail de littérature qui, à la base, est dans les livres, le transposer, le dériver vers un travail de performance, en soutenant qu'il y a une équivalence entre les deux en termes de sens, bien que les supports, les effets ne soient pas les mêmes, mais en soutenant que la littérature, elle peut être aussi un objet de performance et de son. Ça, c'est une idée par rapport au corps, justement, au corps de l'écrivain, qui tout à coup devient le corps du performeur. Bien, c'est une idée, effectivement, moi, je pense qu'il... Pour moi, c'est une certaine preuve de liberté. Enfin, en tout cas, c'est un désir de liberté, un désir de s'exprimer aussi, mais au sens fort, enfin, au sens de s'exprimer, au sens de produire un sens à partir de soi. Et ça, je pense que c'est quelque chose, moi, que d'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire ça, c'est pour ça que j'en parle, on est quand même quelques-uns. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait d'une manière aussi spontanée et aussi désespérée, peut-être, s'il n'y avait pas eu 68. Et l'effacement et la disparition, quand même, jusqu'à aujourd'hui, la volonté de faire disparaître 68, une volonté qui perdure aujourd'hui, concernant la commémoration, de toute façon, des 40 ans.
La bourse est en feu. En ce moment même, il y a des flammes qui montent à l'intérieur de la bourse, car des manifestants ont pénétré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la bourse. Ils ont forcé tout d'abord les grilles, ils ont monté les marches, ensuite ils ont enfoncé les portes, ils ont déposé à l'intérieur.
Les Amants réguliers, Philippe Garrel, 2007.
C'est foutu maintenant.
Les ouvriers sont en train de céder. Et les syndicats ont encore plus peur de la révolution que les bourgeois. Tout ce qu'ils veulent, c'est tirer un peu plus d'argent au patron. Le petit bonheur, c'était le salaire. Pas compris que c'est pas l'argent qui compte, c'est la vie. Et que c'est pas l'argent qui va changer la vie. C'est vraiment dur, je suis désespéré, je te jure. Alors tu vois, maintenant, la seule question, c'est est-ce qu'on peut faire la révolution pour le prolétariat malgré le prolétariat?
Attends un peu, ça va peut-être changer.
Non. Ça peut pas changer.
C'est vrai que Guattari appelait les années 80 les années d'hiver, et il avait raison. On est arrivé à une époque où la démotivation et surtout l'amnésie générale pose problème.
Ramucho Mata.
Et quand on découvre que rien n'est fait pour que les écoles soient des lieux de création, qu'aucune leçon de l'histoire est tirée, c'est très très triste. Là, on est soi-disant en train de célébrer mai 68 et on célèbre rien. La fête du travail, c'est la fête où les gens ne travaillent pas. C'est le monde à l'envers. On devrait travailler qu'une journée par an, ce serait merveilleux. Mais non, je délire. Mais je pense qu'il y a encore des leçons à tirer de Fourier. Moi, je me rappelle très bien de ce que me disait un de mes frères, qui s'appelait Gordon Mataclar, qui découpait des immeubles. Moi, j'adorais écouter la musique de Lou Reed et des choses comme ça. Il me disait, c'est très bien d'écouter Lou Reed, mais essaye d'écouter ce que Lou Reed écoute. Et essayez de savoir ce que les surréalistes lisaient, écoutaient, faisaient. Et en allant à la source des inspirations, on découvre que nous avons un fond commun qui est absolument merveilleux et qui est à la portée de chacun. Et je pense que l'acte révolutionnaire, c'est justement voir cet identifiant, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de mots, et heureusement qu'il n'y a pas de mots, j'espère qu'il n'y aura jamais de mots, mais cette espèce de chose qui nous permet d'être davantage nous-mêmes et moins victimes de la réalité.
On arrive à un ordre à l'autre bout de la chaîne, actuellement, où pour transmettre quelque chose, on peut le transmettre avec une série de messages transmis par un ordinateur. Aujourd'hui, désigner quelqu'un, ça peut être prendre un certain type de numéro qu'on fait passer dans un ordinateur, et ça peut parfaitement qualifier non seulement la localisation de la personne, mais l'ensemble de son comportement, de sa liberté, ses potentialités économiques, etc.
Félix Guattari, cours de Gilles Deleuze à Vincennes, 1975.
Alors, entre-temps, je dirais, si vous prenez une image, il y a eu effondrement sémiotique, en ce sens que les modes d'énonciation collective qui impliquaient articulaient les uns aux autres de façon indissoluble les différentes composantes sémiotiques, gestuelles, mimiques, prosodiques, linguistiques, etc., se sont trouvées réduites de telle sorte qu'il y a toujours l'impossibilité de les traduire en termes de quantité d'informations. Le travail de l'apprentissage de la langue, le passage de la langue bébé à la langue de l'école, de la langue de l'école à la langue professionnelle, etc., c'est amener à rendre les individus capables, quelle que soit la polyvocité de leur désir, d'arriver à cette réduction possible, qui est essentielle effectivement au système de production, au système d'échange, puisque seuls peuvent être mis en circulation des gens qui sont traductibles en termes d'informations dans le système économique, dans le système de production. Ou sinon, ce sont des fous, des marginaux, des poètes.
Deleuze et Guattari, c'est clair qu'ils se sont que pour moi, quand j'ai travaillé sur le concept de ritournelle, c'était clair pour moi que je travaillais sur quelque chose qui avait à voir avec 68. D'ailleurs, je venais de passer 6 ou 7 ans à l'université, où il était hors de question en Franche-Comté de parler de toute cette pensée-là. À peine Althusser était à peine peut-être toléré, parce que c'était des yeux althusseriens qui nous prodiguaient leur enseignement. Mais il était hors de question de parler du structuralisme, hors de question de parler du situationnisme, encore moins, hors de question de parler de Deleuze. Foucault était à peine toléré, et encore. Donc moi, j'ai vécu vraiment entre 86 à l'université, entre 86 et pratiquement pendant 10 ans, on va dire, j'ai vécu vraiment une négation totale de cette philosophie-là et de ces théories-là. En France, française, c'était complètement proscrit. C'est tout juste si on pouvait en parler en colloque, en intervenant, et encore. Et je pense pas que le fait de passer des concours, ça justifiait ça à ce point-là. Ce qui fait que quand j'ai décidé d'arrêter l'université et d'enseigner aussi, eh bien moi, et d'être écrivain, eh bien Deleuze et Guattari, j'ai vraiment eu un désir absolu d'écrire sur eux. Donc je savais qu'en écrivant ce livre, je savais que c'était rattaché à 68, enfin en tout cas quelque chose à l'époque qui était interdit. Je me suis rendu compte, après avoir écrit le livre et après cette publication, qu'en fait Deleuze et Guattari, c'était une pensée qui était complètement intégrée à l'art contemporain, voire même extrêmement tendance, et idem pour la littérature.
quel moment
tu t'aperçois que le fait, au fond, de prolonger la contre-culture, c'est-à-dire, au fond, avoir un mode de vie expérimental, c'est, au fond, le mot d'ordre de la contre-culture, c'est vivre votre vie comme une expérience, avec tout ce que ça peut impliquer, tu le sens se retourner, et le grand phénomène de normalisation et de mise en coupe réglée arrive, en fait. À quel moment tu le sens
Je crois que je suis dans cette génération-là totalement. C'est-à-dire que j'ai 20 ans en 82, je commence vraiment à me donner les moyens de faire des choses. Enfin, ce qui était déjà là à 13-14 ans, évidemment à 20 ans, commence à exploser d'une manière un peu plus assumée, assurée. Mais en même temps, ce que je ne sais pas, c'est que c'est déjà la fin.
Patrick Bouvet.
Et donc, je vis, mais comme la plupart des gens de ma génération, je suppose, qui ont envie de faire des choses, je vis cet étrange phénomène qui est à la fois d'avoir un héritage où je me dis, il y a des choses possibles, il y a des brèches qui sont ouvertes et refermées, mais elles ne sont pas complètement fermées. C'est à moi et aux autres de voir comment on peut peut-être faire des choses. Et comment je m'aperçois en même temps que ça se referme. Tout semble de plus en plus difficile pour arriver à vivre une expérience, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, même modeste. Et en même temps, je me fais moi-même bouffer, je le sens bien, je prends du plaisir, j'ai l'attraction-répulsion sur cette culture spectaculaire qui se met en place, dans laquelle je prends aussi du plaisir, je prends des choses. Je reste toujours critique et j'essaie d'avoir une distance. Et cette distance, elle s'amenuise, elle s'efface par moments. Elle revient très rapidement quand je suis peut-être plus en souffrance. Et je crois que depuis... j'ai 45 ans aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression que ça fait 25 ans que je vis comme ça. Je vis pris... Alors, je ne sais pas, c'est peut-être le cas pour tout le monde, même des générations différentes, mais je suis pris dans ce grand écart. Et ce truc doit d'ailleurs... plutôt avec les années qui passent, plutôt m'abîmer. Je crois que je suis de moins en moins gagnant dans l'histoire, si tant est qu'il y a quelque chose à gagner. Je crois que je m'en sors pas très bien, mais voilà, je reste avec ça, je reste dans l'idée d'écrire, de faire de la musique, enfin du son en tout cas, la vidéo, enfin je reste avec cette envie de m'exprimer. Là, il y a encore un cran de passer, la technologie nous amène encore autre chose.
Dans un monde qui, à chaque instant, peut être détruit, et nous vivons dans un tel monde. Donc, dans un monde où, d'une certaine manière, on peut aller jusqu'à dire que son fondement caché serait l'extermination.
François Méronis.
C'est très délicat, c'est très naïf que de croire qu'on peut, encore une fois, embrasser le parti du diable. Ce qui arrive, et c'est ça qui est difficile à penser, c'est que dans la métaphysique, retourner, qui est le temps dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le nihilisme accompli, le diable, d'une certaine manière, est devenu majoritaire. Et les humains ont beaucoup de mal à penser une situation planétaire où, effectivement, le diable ne serait plus un élément d'opposition, mais serait le substrat même de ce qui arrive. Si on admet ce principe, la question, c'est comment déborder le diable ?
Il souffre de troubles de la personnalité. Il est obligé de faire équipe avec un jeune agent inexpérimenté. Il envoie un commando récupérer l'otage. Il se réfugie dans un bunker. Il s'injecte une drogue puissante qui le rend invincible. Il décide de faire une virée dans ces paysages immenses et sauvages. Il est sous le choc quand il découvre son sosie. Il est puni par les dieux. Il a reçu une lettre piégée à l'anthrax. Il attend dans le couloir de la mort. Il refuse de croire à un phénomène surnaturel.
J'ai ça aussi dans ces lectures, on me dit ah bah oui, mais en fin de compte, vous parlez pas de vous, vous parlez comme ça de choses, vous mettez des dispositifs, mais ce n'est que en creux, ce n'est qu'un autoportrait générationnel. C'est comment les aînés ont ouvert les portes pour moi et j'ai cru que j'allais pouvoir jouer en contrôlant quelque chose là-dedans, en restant créatif. Et comment ça n'a fait que de me vider un peu plus la tête. Et je me sens complètement comme quelqu'un qui est un pur produit d'une pop culture. Enfin, moi, je reviens beaucoup tardivement sur Warhol. Et je relis beaucoup le journal de Warhol, tout ce qu'il a un peu écrit, ou qu'il a dicté plutôt. Toutes ces choses-là, c'est quand même... Voilà.
Donc, c'est-à-dire, en fait, le travail sur la surface.
Warhol reste une énigme, parce qu'on dit, est-ce qu'il était ça, est-ce qu'il jouait. Pour moi, il est complètement ça, il incarne le mort-vivant que nous sommes tous devenus.
Ok. Now, will you take a picture of me? Does that picture come out?
What does he do? Just push the button?
Yeah, just well, 3 feet away and I'll focus. You look into this thing. You don't even have to look.
Andy Warhol, séance Polaroid, à la Factory, 1971.
Or are you trying to say that it's easy enough for anybody to do it?
Huh? No, I'm just trying to get a picture collection.
You think we're just all watching each other all the time?
No. Will you take a picture of me?
Okay. No, beautiful.
That's no. Oh, so funny. Well, you're out of focus because you're 3 feet away. I'm putting myself in focus.
It's 3 feet. It's got to be within 4 feet.
Okay.
There you are.
Okay,
Warhol. Warhol aurait pu dire ainsi, si je pouvais être sûr que tout ce que je fais n'est que du bluff, je ferais des choses extraordinaires. Il aurait pu dire, si je savais que tout ce que je fais n'est pas de moi, je ferais des choses merveilleuses. Ça, c'est le snobisme. Et en même temps, c'est le défi de l'agnostique, de celui qui n'y croit pas de faire mieux que tous ceux qui y croient. Warhol ne se fatigue jamais.
Jean Baudrillard.
L'agnostique ne va pas se fatiguer à travailler pour la gloire de Dieu ou à faire la preuve de l'existence de Dieu. Warhol ne va pas se fatiguer à travailler pour l'art ou au progrès de l'art. Il ne va pas se fatiguer à faire la preuve de l'existence de l'art. Pour Warhol, le monde est là. Et il est excellent. Les gens sont là et ils sont OK. Il n'y a pas besoin de croire à ce qu'ils font, ils sont parfaits. C'est lui le meilleur, mais tous sont parfaits. Tout le monde est génial. Car cette super démocratie warholienne, qui défie le sentiment de caste et de privilège qui est généralement celui des artistes, ne vient bien sûr pas des droits de l'homme. Elle vient au contraire du principe du mal. Le principe du mal, c'est le principe du monde comme illusion totale. L'artifice du diable. Or, il se trouve que le principe du monde comme illusion est aussi le principe le plus égalitaire qui soit, le plus démocratique, parce que chacun est égal devant l'illusion du monde, alors qu'avec le principe du bien, le principe de vérité, c'est le principe le plus inégalitaire qui soit.
First thing was to get back into the damned hotel, and that wasn't easy. Not that the narrow street door was closed tight. On the contrary.
Brian Geisy.
It hung slightly ajar. When is a door not a door? When it's a portal. This particular door of the dead looked a bit crazy to me, unhinged.
D'une part, la constitution de la contre-culture française, elle est très différente de la contre-culture américaine, mais... Emmanuel Rabut. Comme nous, on vient du rock, comme nous, on a été traumatisés par le rock quand on était gamin. Le rock, ça vient des États-Unis. Mais nos influences, elles viennent aussi de toute l'histoire de l'avant-garde française, de Mallarmé, par exemple. Mallarmé, pour moi, reste le plus grand poète de tous les temps et mon influence majeure. Donc, on peut dire qu'on participe dans nos productions, si tu veux, de l'américanisation du monde, oui, c'est sûr, on peut le dire.
Moi, j'ai été marqué énormément par Denis Roche, quand même, hein, ses antifixes et Louvba, surtout. J'ai été marqué par Philippe Solers, Loi H, mais...
Sylvain Courtois.
Effectivement, quand on les compare aux textes américains, Pynchon, par exemple, ou d'autres, Dolillo, Federman, etc., bon, Lewis Shiner aussi, un mec que j'aime beaucoup, moi, William Volman, ou William Gass, etc. Bon, il y en a un paquet, quoi. Hein. Des postmodernes, ou Gilbert Sorrentino, par exemple. Il y en a un paquet des postmodernes avant de pop américains, quoi. Bon, quand on voit ça, on sent très bien, quand même, que la France est un peu en retard, quand même, quoi. Elle n'a pas publié ces gens-là au bon moment, quoi.
We'll be right back.
le punk arrive assez rapidement dans l'histoire. Donc moi, ce que j'ai tout de suite entendu dans le punk, c'est do it yourself, quoi. Vraiment, si tu veux faire de la musique, t'as pas besoin de jouer comme les gens font la musique progressive. Ben moi, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans. Je suis déjà dans l'idée de créer des choses. J'ai une envie dévorante d'exprimer quelque chose.
Donc tu vois pas la phase terminale de la contre-culture au moment du punk.
J'ai 14 ans. J'ai 13-14 ans. Ce que je vois, c'est qu'on peut faire des choses sans être un virtuose. Parce qu'il y avait aussi toute la musique progressive. Enfin, le rock était mal barré à cette époque, avant le punk. Hein. Rappelons ça quand même. C'est-à-dire qu'il y avait les groupes progressifs.
Patrick Bouvet.
Qui ont peut-être donné des choses d'ailleurs intéressantes. Mais enfin, ça partait dans des trucs symphoniques, avec des gens qui faisaient des démonstrations. Tous ces lives qui sortaient où il y avait un solo de batterie pendant 10 minutes, un quart d'heure.
Ouais,
des sortes de virtuoses. Pompier, ouais. Oui, un peu pompier. Ça, je l'entendais aussi. Hein. Et donc, boum, d'un seul coup, arrive quand même une grande claque. Les mecs arrivent avec trois accords, comme à la source, ils reviennent au début, quoi. Et voilà, j'entends ça, moi. On peut faire un groupe sans savoir accorder sa guitare, pratiquement, quoi. Ce qui est important, c'est l'énergie. Et à 14 ans, j'en ai un peu à revendre de l'énergie, quoi. En étant en banlieue, comme ça, un petit peu esselé. Et dès le collège, comme ça s'est passé à peu près partout, sur des centaines d'élèves, on est 4 ou 5 à aimer le rock et à vouloir faire des groupes. Donc voilà, premier groupe, 14-15 ans. Et puis c'est quand même une super, enfin moi je trouve que c'est une super période de ce point de vue là, c'est qu'on a quand même cette période hyper riche avec le punk et puis après la new wave, tout ce qui est post-punk, cold wave et tout ça. Et là moi entre 76, 77 et 82 à peu près, je sais pas historiquement comment, maintenant on décide quelles sont les dates de ça, mais voilà à peu près moi c'est ça. Donc entre mes 14 ans et mes 20 ans, j'ai une déferlante de choses incroyables pour moi.
C'est Joy Division,
Oui, c'est tout ça, mais alors, ce qui est important dans la New Wave, moi, c'est que l'art vient se mélanger à ça, et la politique et tout. Alors c'est-à-dire que moi, je découvre, par exemple, alors ça c'est un peu avant, mais que Bowie a fait des textes avec le cut-up. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, Burroughs? Et je découvre Burroughs par Bowie. Je me dis, si Bowie parle de Burroughs, c'est que ça doit être bien, donc faut que j'aille voir ça. Donc voilà, je me retrouve à lire Burroughs. Et puis après, je sais plus comment arrive tout ça, mais on tire le fil et ça nous tombe dessus, quoi.
Oiga, amigos. Oiga, amigos. Paco, Enrique, last words of Hassan Saba, the old man of the mountain. Listen to my last words anywhere. Listen, all you boards, governments, syndicates, nations of the world.
William Burrow.
And you powers behind what filth deals consummated in what laboratory to take what is not yours, to sell out your sons forever, to sell the ground from unborn feet forever, for Eve are. Listen to my last words, any world. Listen, if you value the bodies for which you would sell all souls forever.
La phrase de Burroughs, pourquoi il ne faut pas être vu, est une phrase mystique. C'est-à-dire que Burroughs était persuadé, par exemple, que quand un individu rencontre un autre, celui qui est vu le premier a perdu.
François Méronis.
Ne pas être vu, ça ne signifie pas ne pas être envisagé par le système de contrôle. On l'est tous envisagé. Ça veut dire être suffisamment compliqué, suffisamment retorse, pour être invisible et insondable, quoiqu'à chaque fois exposé. C'est quand on occupe justement cette position, quand on se... on ne peut pas être vu, quand bien même on serait constamment visible, dans un sens. On est visible et en même temps pas vu.
Thank you. Look at that picture. Look at that picture. Good. Good. Thank you. Thank you. Does it seem to be persisting? Good. Thank
Does
you.
Does it seem to be persisting?
Look at that picture.
Good.
Good.
Thank you.
Thank you.
Does Look it at seem that to be picture.
Persisting? Good. Good.
Thank you.
Where are we now?
How does it seem to you now?
Sans William Burroughs, il n'y aurait pas Neil, quoi, puisque Neil est un cut-up, c'est un livre de cut-up total, quoi. C'est-à-dire, c'est un livre de cut-up entier, totalement cut-upé. Il y a très peu de moi là-dedans. Et voilà, c'est pour ça que je disais qu'on arrive à une fin de l'art, en quelque sorte, à la fin du cut-up, en tout cas, quoi. Parce que ce livre-là, il se clôt sur lui-même.
I'm not being impertinent or disrespectful, but I do have a question for your guest, and I'm terribly shocked that he's given so much airtime for this. Has he ever had a psychiatric evaluation?
My father was a
psychiatric social worker for several years, so in some ways he got to know me very well. In other ways, it was a classic example of parent and child lack of communication.
Blood in the street. Blood in the street and roaming dogs in heat. Rabid foaming the beast cage in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in?
Rose disait que l'écriture avait été inventée pour masquer la communication. En fait.
Ramucho Mata.
Le langage est un virus. Le rythme des phrases en dit bien plus long que le sens des mots. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est vrai que si on enlève une phrase du sens linguistique des mots, on obtient des qui véhiculent aussi une information.
C'est comme ça que je pense la performance à la fois dans les livres et sur scène. Tout performe en américain, c'est convaincre. C'est essayer de, non pas d'avoir le dernier mot, mais c'est essayer comme ça d'influencer sur le jugement d'autrui à l'occasion d'une conversation.
Christophe Fiat.
Et effectivement, moi je suis dans une génération où rien n'a été donné. On a eu beaucoup de mal à prendre des choses aussi, à récupérer ce dont on avait besoin. Et on vit vraiment dans l'urgence, et avec une grande peur du lendemain. Et effectivement, dans mes livres, aussi bien dans mes performances, moi je passe, c'est ce que je dis, des contrats performatifs aussi bien avec le lecteur qu'avec le spectateur, à savoir que je mets en place un modèle critique qui fait que je veux que les gens aiment ou n'aiment pas, soient d'accord ou pas, mais c'est-à-dire je mets quelque chose qui va produire un impact.
C'est l'histoire d'un agent spécial qui a une vie impossible parce qu'il est tout le temps en mission. Alors, il écoute ses instructions sur une bande magnétique qui s'autodétruit.
Good luck, Jimmy. Good luck.
Les avant-gardes bon, sont des concepts qui sont pour moi tout à fait problématiques parce qu'ils semblent justement désigner comme une espèce de mouvement historique continu, une espèce de continuité de sens. Or, je crois que bon, même avant-garde a toujours signifié, même tout au long du XXe siècle, des choses extraordinairement différentes.
Jacques Rancière.
Bon, si on pense artistiquement, bon, il y a des gens pour qui bon, avant-garde, ça signifie l'art abstrait, la musique dodécaphonique, des gens pour qui l'avant-garde, ça signifie quasiment l'opposé, à savoir bon, éventuellement le dadaïsme, le futurisme, le surréalisme. Donc avant-garde, je dirais, en art, a désigné aussi bien des mouvements plus ou moins censés promouvoir l'autonomie de l'art que des mouvements censés, au contraire, promouvoir disons, la fusion de l'art et de la vie. Et je dirais que politiquement, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une définition stricte, en quelque sorte, d'avant-garde, bon, qui est une définition fondée sur le marxisme, le parti qui détient un petit peu la conscience du mouvement historique, qui mène la classe prolétarienne, qui est destinée à réaliser ce mouvement historique, et ainsi de suite. Et puis, il y a des choses complètement différentes, justement, je dirais, comme des avant-gardes qui sont plutôt, disons, des avant-gardes du côté de, bon, du changement de la vie, de l'expérimentation anarchique, bon, surréaliste, situationniste, que sais-je, de la vie. Donc, pour moi, si vous voulez, je n'accepterai pas l'idée, si vous voulez, d'un siècle des avant-gardes, ou alors, il faut dire des, mais voilà, du conflit, disons, des avant-gardes à ce moment-là, et pas du tout un siècle des avant-gardes, de même que je n'accepterai pas nécessairement l'idée que, disons, quelque chose disparaît dans les années 70, parce que qu'est-ce qui se passe quand même autour de 68? Bon, il y a cette espèce de de grand revival du marxisme, de cette espèce de quand même de grand de, le moment où on a où on voit tout d'un coup tous les grands signifiants marxistes réinvestis, que tout ça disons un petit peu se disperse, éventuellement se dissolve dans les années 70, si vous voulez. Par exemple, quel est au juste le rapport entre tout ce qui a pu exister dans les années 60-70, aux États-Unis, autour du pop, autour de toutes les formes de contestation de l'art aux États-Unis, et puis, l'avant-garde politique, en France. Quel rapport il y a au juste entre le maoïsme de 68-70, et puis le pop art, ou bien alors après, tout le développement de l'art performantiel, ou le développement du minimalisme. Je ne crois pas du tout qu'on puisse dessiner une espèce de figure historique. Unitaire.
USPS stamp stamp dollar 3 1 dollar 3 international stamp INT stamp dollar 7 2 dollar 14 international stamp INT stamp dollar 3 0 0 1 dollar 3 subtotal dollar 21 80 sales tax dollar 0 total 21 80 cash 100 dollar 21 80 un ticket Nikolai Karsten Rome Los NRE flight gate C 926 18 24 EEB 20 cabine 8 18 Star Alliance.
Ça, je m'en aperçois aujourd'hui au travers d'un travail que je fais de portraits, mais d'autres. La rencontre, ou en tout cas la mitoyenneté, le rapprochement de l'ensemble de ces codes, ces traces, les uns des autres, notamment par l'élaboration de différents types d'index, géographique, historique.
Anne-James Chaton.
Génère une possibilité d'en sortir en quelque sorte, ou en tout cas d'imaginer ou d'initier d'autres types de narrations. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose effectivement qui paraît très 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 figé et capté par une langue marchande, malgré tout, à l'intérieur de cette masse de documents, s'autogénère en quelque sorte, parce que ça ne dépend pas de moi. Moi je suis qu'un archiviste en quelque sorte, qu'un collectionneur. Eh bien, en les mettant les uns à côté des autres, ces traces elles-mêmes finissent par sortir d'elles-mêmes. En
déborder. Sorte.
Par déborder et par générer du diffus, générer du non rentable, générer de la perte, générer des...
Ça prend pas d'accident aussi.
Une multitude d'accidents. Alors c'est ça qui est très étrange, c'est que ça produit une multitude d'accidents, et donc du coup...
Interruption...
Voilà. 9, 18, 11, 21, 24, un ticket pour les vols portés, vol 10, J, Santa Monica, Seattle, Refilio, Act Mondial, 777, Select, Refilio, Act from the menu, 02-19-2004, 17-54, Activate Transaction, 3-ACC-83-10, and Drive Manual Invoice... S'il fallait... 20, réinscrire un peu ma parole, comme tu le disais, dans une forme de messianisme marxiste, mais de ce qui peut advenir, c'est une forme d'espérance qui s'inscrit à l'intérieur même de la codification totalitaire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aussi, et bien heureusement, que l'accumulation de ces données, plus la liste en définitive sera exhaustive et rigoureuse, plus elle fuira de tous les côtés, quoi, en quelque sorte. Elle ira vers un ailleurs qu'elle ne maîtrisera pas du tout et qui, du coup, devient possible pour d'autres. Quoi. C'est d'autres deviennent possibles.
Tout en se regardant comme l'hypermodernité amène le 11 septembre. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un événement.
Le 11 septembre, à la limite, c'est une tentative de concentration de toute la potentialité de la codification, du chiffre, en une date, en quelque sorte. Et après, on en sort et on s'aperçoit que ça explose par ailleurs, quoi.
Il y a un livre que je conseille toujours à lire, c'est l'histoire du socialisme de Saran Alexandrian, qui faisait partie aussi du groupe surréaliste, où il raconte très bien la nécessité du capitalisme à s'accaparer tout et à mettre les problèmes loin, ayant des illusions que les solutions sont à portée de la main.
Ramuccio Matta.
Cette perte d'autonomie dont a besoin le capitalisme pour exister, elle essaye de faire croire que tout ce qui ne rapporte pas est inutile. Mais on le voit très bien, chaque jour qui passe, le capitalisme s'est terminé. On vit dans une société qui est en pleine agonie, où il n'y a plus de désir, il n'y a plus de plaisir, la fonction des uns et des autres est totalement trouble, tout le monde est obsédé par des choses totalement inutiles, et c'est déjà fini leur empire. Donc c'est sûr qu'ils ont essayé de faire croire que la poésie, c'est quelque chose qui est hors de la vie. C'est fait qu'on apprend à l'école. Comme on essaye de faire croire que la musique, ce serait qu'une zone de l'existence. On ferait de la musique qu'entre 12 et 18 ans. Après, on n'a plus le temps. C'est autre chose. Et cette espèce de déterminisme comme quoi, à partir du moment où on devient adulte, on devrait avoir des responsabilités et ne servir qu'à produire du capital, c'est évidemment totalement erroné, mais c'est déjà fini. Ouais. Donc il faut, c'est sûr qu'il faut se documenter, il faut résister à la stratégie de la confusion qui fait croire que telle chose égale une autre. Non, les choses sont distinctes et il y a des niveaux. Il y a des choses qui demandent plus d'efforts que d'autres et l'effort se mérite à travers des initiations. C'est pas n'importe qui peut avoir accès à n'importe quoi. Tout le monde ne peut pas avoir accès à la fortune. Et la fortune, ce n'est pas l'argent, la fortune, c'est la chance. Et cette chance, elle s'acquiert à force de rencontres, d'ouvertures, de chutes.
Si vous êtes Adecco, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Air France, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Air Liquide, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Alcatel, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Allianz, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Alstom, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Altadis, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Altran, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes ArcelorMittal, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Arkema, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Avenir Télécom, vous êtes plus riche. Si vous êtes AXA, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes BIC, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Biomérieux, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes BNP Paribas, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup
la plus déconstruction
riche.
Du langage, enfin la destruction des mots.
Si vous êtes Bonduel, vous êtes plus riche.
Le remplacement des mots qui si sont des mots bon, importants, des riche. Vieux mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, si par de la soupe.
Si vous êtes Beneteau, vous êtes
on voit très bien
riche.
Que ça vise si dans l'ensemble beaucoup, beaucoup au consensus.
Éric Hazan.
C'est vraiment tout à fait clair. Ça ne va pas dans n'importe quelle direction. Ça vise à limer les conflits. Le mot social, vraiment, c'est devenu un mot qui subsume tout ce qui est destiné à rendre acceptable l'inacceptable. C'est incroyable, quoi. Il y a les cas sociaux, il y a les logements sociaux, les partenaires sociaux, les plans sociaux. Il n'y a pas de plan social, il n'y aura pas de plan social. Ça veut dire qu'on va virer que 25% des salariés d'une entreprise. Qu'on appelle plan social un plan de licenciement collectif, c'est quand même extraordinairement... Voilà, c'est un exemple paradigmatique, un paradigme de cette manière qu'a le décapage des mots de créer, de chercher à gommer la guerre civile, à créer le consensus.
Appeler à cistanas qui est solidarité.
Voilà.
Je crois qu'il y avait un autre exemple dans votre livre, la substitution de lutte des classes à un mot totalement consensuel qui nie le fait qu'il y ait encore des luttes des classes.
On nie même qu'il y ait des pauvres. À la radio, c'est tout le temps des gens de conditions modestes. Les gens de conditions modestes, pourquoi ils seraient modestes, hein, après tout? Pourquoi on ne pourrait pas être à la fois pauvre et orgueilleux? Non, ils sont de conditions modestes. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas d'opprimés, il n'y a plus que des exclus.
Même au moment de nos engagements les plus forts, il n'y a jamais eu de conception de la littérature qui devait se mettre au service de la révolution. On avait une conception de la littérature comme révolution en elle-même. C'était l'acte d'écrire qui était révolutionnaire, pas du tout de se mettre au service de... Bon.
Jacques Henrique.
Alors... C'était une situation étrange, c'est à la fois refuser de mettre la pensée, la littérature au service de quelque chose, au service de la politique ou d'autre chose d'ailleurs, ça aurait pu être de la religion, je ne sais quoi, et puis en même temps d'avoir un type d'engagement. Et c'est cette articulation-là qui est en effet difficile à penser.
Pour dire des choses très simples, pour la peinture, pour la musique, oui. On entend aujourd'hui des transformations considérables au niveau de l'audition, de la vision, mm-hmm. Et il semble qu'au contraire, en ce qui concerne le langage, la phrase, si vous voulez, cette transformation soit absolument pas acquise.
Est-ce finalement. Que vous l'auriez lu comme moi, par exemple, ce texte?
Non, pas tout vous à fait, mais je trouve que vous l'avez bien lu.
Philippe Solers,
bien lu, de
1976.
Vous l'avez pas lu de façon agressive.
Roman H.
Considérable. Non, qui dit « Salut la machine » avec ses pattes rentrées, son côté tortue, catasocle, ses touches figées, accent tonique hors de strophe. Elle a rêvé cette nuit que je lançais la balle très haut et très loin, elle ne s'arrête plus, etc. Bon,
c'est ça... du roman ou c'est de la poésie?
C'est tout à la fois. C'est-à-dire que c'est du roman à l'intérieur de bombardé par du langage poétique. Autrement dit, si vous voulez, ce qui est essentiel pour moi dès le début, c'est les questions de rythme, si vous voulez, ou les répétitions de syllabes, bon, le T, le... tout ça pour donner l'idée qu'on rentre dans un rythme.
Vous voulez pas nous lire un autre bout, n'importe lequel?
Non, mais je peux continuer, par exemple. Elle allume en passant les cerceaux disposés méridiens plus ronds quand elle les traverse, et voilà la bombe qui retombe toute chaude en fumée grillée. Tiens, on est en pleine montagne, il y a de la poudreuse, regarde les cristaux blancs, violets, sans cet air, et en effet, on enfonce les chevilles dans la pleine mousse, etc. Bon, là, c'est très simple, il s'agit d'un rêve qui fait démarrer le livre, si vous voulez, sur sa lancée, justement, rythmique, parce que je crois qu'on est à une époque où il faut écrire de façon conséquente par rapport à l'époque, c'est-à-dire d'une façon très, très rythmée, très rapide, et au fond, vous savez, tout ça est fait de multiples façons, déjà dans la littérature, pas seulement française. Je crois que la France est très en retard sur ce terrain-là, si vous prenez la littérature américaine, il y a longtemps qu'elle est passée dans une dimension, si vous voulez, beaucoup plus percutante, beaucoup plus rapide.
C'est vrai que à un moment, on a critiqué un petit peu d'abord la notion d'avant-garde et probablement une forme
Jacques Henrique
d'obscurité peut-être de nos textes. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, bon, maintenant ça suffit, il faut parler plus clair. Je crois que c'est aussi probablement le point de vue de Solaire, ce qui s'est dit, mes thèses que je développais dans Paradis ou dans Nombre ou dans tous ces textes-là, je vais maintenant les rendre plus accessibles, sans concession d'écriture, nullement, parce que l'écriture se ressemble. Mais par exemple, là, où il n'y avait pas de ponctuation, on peut se dire, si je remets de la ponctuation, ça aidera à la lecture. Je crois que c'est un souci pédagogique qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que, comme on se bat aussi, je dirais pas pour des idées, mais pour la pensée, on se dit, il vaut mieux être efficace. D'où la rupture avec une certaine forme de formalisme qui a perduré chez des gens qui étaient proches de nous. Je pense à des petites revues comme TXT.
La question de la communauté a été celle des revues d'avant-garde. Quelle langue commune pour ces sociétés secrètes qui fondera une révolution à venir? Avec Tija, Evidence, la revue de littérature générale, Tycoon, Ligne de risque, le milieu des années 90, voir revenir des figures du jeu et de la guerre.
Est-ce que la fondation de Tija a été un tournant?
Oui, ça a été un tournant parce que ça a été... j'avais déjà fabriqué des revues auparavant, mais ça a été la revue qui, notamment avec celui avec qui je la faisais, Christophe Fiat et Vincent Minuit, qui était graphiste, c'est le moment qui nous a en quelque sorte...
Anne-James Chaton.
Mis en coprésence d'une multitude d'autres revues qui se fabriquaient à l'époque. Le premier Tija, c'était en 97, en francophonie, on va dire. Belgique, Suisse, France, moins le Québec. Donc elle est importante dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle, à la fois, elle définit un espace et un territoire, mais elle apparaît aussi dans un champ et elle rentre en dialogue avec toute une multitude à la fois de revues et donc d'auteurs et donc de...
Est-ce que tu la plaçais par rapport à d'autres revues? Donc on a parlé de la revue de littérature générale, mais on peut parler aussi de Tycoon, on peut parler aussi d'Evidence de Mehdi Belhaj-Kassem. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une floraison à un moment de revues dont la capacité symbolique est inversement, comme je dis toujours, proportionnelle à leur diffusion. Elles sont d'autant plus importantes symboliquement qu'elles sont très peu visibles. Donc est-ce que tu fais attention à ce qui est en train de s'articuler? Les Tycoon étant plutôt post-situationnistes à Gamben, de l'autre côté, Evidence est aussi très marqué par le situationnisme, mais aussi par d'autres choses. Enfin, comment ce champ magnétique est en train de se mettre en place?
Toutes ces revues en fait sont rentrées en dialogue les unes des autres, mais à partir de points d'énonciation et de stratégies différentes. Alors, ne serait-ce que par leur titre, même si on pouvait être d'accord sur certaines choses, on a toujours été en opposition, notamment avec Tycoon et avec Evidence, parce que Tycoon et Evidence nous semblaient avoir fait de mauvais choix, ou en tout cas avoir pris de mauvaises décisions quant aux formes poétiques ou prosaïques qui publiaient. Et donc, les revues qui ont, en quelque sorte, à la fois, qui sont entrées en dialogue, qui ont interrogé, critiqué Tycoon et Evidence, mais il me semble qu'il y en a une qui manque, une autre. Il y avait Tija, la nôtre, il y a eu Poésie prolétaire, il y avait TTC, il y avait, bon, à l'époque, mais qui parlait depuis un autre endroit, hein. Il y avait Gnoc, puis encore d'un autre endroit, il y avait Java. Mais
il y avait Perpendiculaire.
Il y a eu aussi Perpendiculaire, contre laquelle aussi on les avait attaqués, même Perpendiculaire. Il y avait un dialogue permanent, oui.
Nous avons créé une revue, en quelque sorte, pour nous astreindre à un travail intellectuel intense, en dehors de toute institution.
François Méronis et Yannick Haenel, fondateurs de la revue Ligne de Risque.
Du coup, la revue fonctionne comme une contre-société d'emblée. C'est-à-dire que ça nous amène à nous intéresser à toutes sortes de choses, à la pensée indienne, par exemple, ou à l'astrophysique, dans certains cas, ou à toutes sortes de choses qui nous requièrent, et à partir desquelles nous avons pu écrire nos livres, en fait.
1997, c'est l'époque où, dans le champ littéraire en France, des gens comme Michel Houellebecq ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'un certain roman décomposé s'est donné les moyens de devenir une sorte de norme, de produit agréé courant, comme avait pu le dire Mallarmé.
Et, Yannick Haenel.
Si la revue naît en 1997, c'est d'une part pour essayer de créer un contre-pôle à cette prise de pouvoir-là, qui n'est jamais qu'une prise de pouvoir de la marchandise elle-même sur le champ littéraire, et aussi pour essayer de trouver un nouveau champ de force. Je me souviens que Walter Benjamin disait qu'au fond, ce qu'il avait cherché toute sa vie, c'était un champ de force entre la Torah et le Tao. Et ce champ de force entre la Torah et le Tao, c'est-à-dire au fond, cette manière d'ouvrir le fameux passage là qui serait non plus vers le nord-ouest, mais un passage vers l'Orient, enfin, vers un Orient qui serait la littérature elle-même. En un sens, on pourrait dire que c'est ce projet que continue avec humilité Ligne de Risque. C'est-à-dire que Ligne de Risque n'est pas un travail de rupture au sens où la rupture a pu fonder toutes les avant-gardes avant, mais c'est un travail d'élargissement. Je pense que ce qui est arrivé au champ littéraire de ces 30 dernières années, depuis, disons, la parution du dernier livre de Jean Genet, Un captif amoureux, qui porte précisément sur la Révolution. La dernière image que Jean Genet se fait de la Révolution, ça sera un désert. Il va essayer d'y mettre le nom propre des Palestiniens, celui des Black Panthers, mais c'est peut-être le dernier moment où la littérature va essayer de croiser un rêve politique, disons. Depuis ce livre de Jean Genet, 1984, je crois, la décomposition s'est tellement accélérée qu'elle est devenue la norme même de la littérature française. Écrire de la littérature française, c'est faire dans la décomposition. Donc effectivement, Ligne de Risque, au départ, c'était un geste d'élargissement en amont. Retrouver, entre autres, ce projet qui a pu traverser des isolés radicaux comme Walter Benjamin, vous voyez, en dehors de toute idéologie. Ce champ de force entre Torah, Tao, ce champ de force qui s'auto-élargit.
Alors, comment tu expliques ce système qui est aussi, d'une certaine manière, revient des avant-gardes, mais autrement, c'est qu'au fond, il y a autant de déchirures, autant de blessures, autant de violences à l'intérieur de ce champ-là. C'est-à-dire que ce monde qu'on pourrait penser, non pas forcément idyllique ou paradisiaque, ou une sorte d'œcuménisme collégial, est un milieu très violent, en fait.
Oui, il est d'une manière très différente que les avant-gardes. Pour une revue d'avant-garde qui absorbait 10 revues possibles, à cette époque-là, c'était chacun faisait sa revue. Quand on voulait répondre à quelqu'un, on fabriquait une revue. Alors pourquoi de toute façon, la violence dont tu parles, enfin, violence, oui, dont tu parles, elle est consubstantielle aux enjeux esthétiques et à la fois théoriques et politiques aussi, parce que chaque revue est un objet politique, pas seulement à l'intérieur du champ de la littérature ou de l'édition, mais d'une manière générique. Tout ça induit des enjeux, donc des discussions et donc des prises de position qui, quelquefois, peuvent être... Et puis, il y avait aussi un élément latent qui était, en quelque sorte, une critique qui émanait des représentants de TXT, qui ne cessaient pas de nous demander d'articuler nos discussions esthétiques et autres dans un canevas théorique clair et défini. Et on n'a jamais voulu répondre à ce qui était quasiment un temps une injonction d'ailleurs. On n'a jamais répondu directement à cette requête, on va dire, parce qu'on considérait que la théorie, et notamment c'était une des entrées de Tija, en tout cas c'est une des raisons pour laquelle la revue s'est constituée, parce que les questions théoriques et les questions de pensée étaient consubstantielles à la fois à l'objet lui-même, tel qu'il avait été pensé par Vincent et Christophe et moi, et puis étaient consubstantielle au texte même, c'est-à-dire à la manière dont les textes se construisaient et à ce qu'ils mettaient en branle. Et puis il y avait ce refus de retomber dans un rapport frontal directement politique. C'est-à-dire que la politique passe par ailleurs.
Cargo culte. Vers 1644-1648. Dans la Vénus au miroir de Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, le peintre ne voit le visage du modèle que dans le reflet d'un miroir. Ce qu'il voit directement, c'est son cul. Dans « Comment j'ai écrit certains de mes livres », posthume Paris, Alphonse Lemaire, 1935, Raymond Roussel explique ses techniques de production dont l'homophonie, entre la première et la dernière phrase, des holorimes approximatifs à partir desquels il fabrique des textes. Je choisissais deux mots presque semblables, par exemple, billard et pillard. Puis j'y ajoutais des mots pareils mais pris dans deux sens différents et j'obtenais ainsi deux phrases presque identiques. Les deux phrases trouvées, il s'agissait d'écrire un conte pouvant commencer par la première et finir par la seconde. Londres, fin du 19e siècle. Eleanor Velasco Thornton et John Walter Edward Douglas Scott Montagu s'aiment depuis l'adolescence. Elle est belle, cultivée, intelligente, mais elle est pauvre. Elle a la grâce. Il est le fils de Henry John Montagu, Douglas Scott Montagu.
Si on prend le détournement, on prend Ducasse et on prend Duchamp, etc. Ou le cut-up, etc. Finalement, ce sont des techniques de réappropriation et de modification, de redistribution. Très différentes les unes des autres, mais qui partent un petit peu du même postulat.
Emmanuel Rabu.
Enfin, dans Trifon Tournesol et Isidore Isou, j'ai utilisé des techniques de détournement. Il y a du prélèvement, mais qui est mixé à un certain nombre d'autres procédés, ou lipiens, des procédés d'écriture, etc.
C'est le mode d'emploi du détournement de Volman et Debord
à l'intérieur. Mais disons que la fonction du détournement chez Debord avait une fonction critique, une fonction très politique. Là, c'est pas du tout mon propos. C'était aussi, dans Trifon Tournesol et Isidore Isou, faire une espèce de, pas de mise à niveau, mais de reconsidération d'un système hiérarchique qui me semble très propre à la société française et dont on peut voir, par exemple, récemment un exemple très frappant. Laure Limongi a édité un livre qui s'appelle Panamérica, qui est un livre brésilien qui date de la fin des années 60, donc qui a été publié à peu près à la même époque que les premiers textes de Guyotard, enfin en tout cas que Eden, 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 et que certains textes de Roche, etc. C'est un livre pop. C'est un livre qui utilise des techniques qui ont été beaucoup, beaucoup réutilisées en France par la suite, techniques de répétition, de modulation, de masse, etc., et qui met en scène un certain nombre de personnages issus de la culture pop. Et en France, avant le Rose-Poussière de Schull, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de texte qui traite une culture pop avec un matériau expérimental ou avec des procédés expérimentaux. Et là, il me semblait intéressant de, pour notre génération qui avons été élevés conjointement au biberon de la bande dessinée, de la poésie, du rock, de la pop et de la variété, de faire une espèce de mise à niveau, de casser le système hiérarchique surtout, qui est encore très présent aujourd'hui. Enfin, quand on parle à certaines personnes lettrées, on ne peut pas mettre au même niveau, je ne sais pas, une série télé, un film de Godard et un bouquin de Denis Roche ou une bande dessinée par exemple. Alors qu'il me semble que l'impact que ça peut avoir sur un travail, sur une configuration mentale, est parfois similaire.
Intéressant aussi, c'est qu'au fond, on serait passé du détournement, qui est une forme encore, disons, classique, critique, politique, au mixage.
Prigent théorise ça, en fait, dans dans ce qui merde en fait. Il parle de, je crois qu'il parle de Cadio, il dit que le concept de mixage a été radicalement modifié avec des gens comme Cadio, enfin à partir du moment où Cadio, parce qu'il est dépolitisé, etc. Quoi. Le mixage, enfin une des questions qui me travaille énormément, c'est la question du genre, c'est la question générique en fait, dans tous mes textes. Et je pense par exemple aux gens de Sonic Youth, par exemple, qui peuvent travailler à la fois sur des pièces extrêmement expérimentales. Bon, par exemple, ils ont réinterprété des grands morceaux de la musique contemporaine. Ils font à la fois de la pop, ils sont dans tout en fait, dans tous les domaines de la musique populaire. À la fois, ils peuvent soutenir Kisro et AMM, à la fois, ils peuvent soutenir un groupe pop, etc., etc. Voilà. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de une tentative de décloisonnement. En fait, c'est pas spécialement nouveau, c'est pas spécialement. Le texte commence par une citation de Picabia. Picabia met ça en avant, il dit que il n'y a pas de création supérieure et que il dit précisément l'œuvre la plus idéale est celle répondant davantage à certaines conventions qui vous paraissent neuves parce que vous ne les connaissez pas ou parce qu'elles ont été plus ou moins oubliées, il n'y a ni erreur ni déviation, etc. Et bon, dans Trifon Tournesol et Isidorizou, c'est traité sur un thème effectivement humoristique, mais on peut considérer qu'il y a des accidents et que ce type d'accident, les accidents qui génèrent un certain nombre d'œuvres d'art, produisent des résultats qui sont identiques.
Il faut se défaire, à mon avis, aussi bien de l'idée du grand art qui aurait été séparé comme ça, séparé un petit peu de l'art populaire, etc., et qui tout d'un coup serait menacé par son invasion, quoi. Il faut se défaire un petit peu de cette espèce d'idée qu'il y aurait eu une grande pureté de l'art. Bon, ben, Mallarmé, il écrivait La Dernière Mode, comme ça.
Jacques Rancière.
Un journal lui racontait les potins mondains, il faisait des recettes de cuisine. Donc, il faut se séparer un petit peu, se défaire de cette espèce d'idée-là, et de même qu'il faut se défaire de l'idée du moment catastrophique où l'art a été envahi par la marchandise. Il faut, encore une fois, peut-être suivre un petit peu ces espèces d'entrecroisements, si vous voulez, parce que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui produit des dynamismes. Donc, bon, l'art, au fond, je dirais, l'art est fétichisé par quelques discours, mais bon, je dirais que au fond, quelqu'un qui va dans un musée au 19e siècle, il s'intéresse à ce que racontent les tableaux, je dirais, d'une certaine façon, si vous voulez. Le moment où on peut imaginer que véritablement il y aurait un pur regard sur l'œuvre d'art, en quelque sorte, c'est pas grand-chose. Et bon, le modernisme, la Greenberg, c'est un truc complètement inventé de manière rétrospective. Au fond, c'est une espèce de discours politique mélancolique, un petit peu, qui, bon, d'ancien trotskiste, qui tout d'un coup devient un discours prescriptif sur l'art, mais prescriptif au passé.
John Cage, Ramucho Mata.
Have and they wither.
Tous les plus grands paranoïaques ont vraiment raison. Ils sont même loin. Moi, je me rappelle de gens en 1972-73, qui disait, vous verrez, un jour on aura tous des bouts de plastique, on pourra plus voyager, on sera fouillé. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc il faut une dose de paranoïa, parce qu'on est toujours un peu visionnaire lorsqu'on est paranoïa, peut-être. Et puis ça permet de douter d'une manière assez constructive, si on n'est pas victime de toutes nos sensations. Et aussi, ce qui est vraiment la leçon de Gaizin, c'est quand vous avez parlé de Burroughs et de le rapport avec Guattari et Deleuze, cette magie. Et le fait que j'ai collaboré avec lui, ça vient vraiment de cette notion que deux personnes en créent une troisième. Et si on regarde les dadaïstes, les situationnistes, les surréalistes, tout le monde, finalement, cette espèce de moment où deux personnes se rencontrent, il se crée ce troisième élément imprévisible. Et c'est ça qui est magnifique.
Et c'est ça dont la raison pour laquelle il y a cette expression du third mind, enfin, de la troisième...
Absolument.
Troisième pensée.
Moi, j'ai fait même une chanson là-dessus, sur 1 plus 1 égale 3. Et c'est vrai que la mathématique, souvent, se trompe. Parce qu'un plus un égale 2, c'est totalement faux. Un plus un égale 3. Et l'idée qu'eux avaient, c'est de s'approprier le langage afin que chacun puisse développer sa propre thématique. Donc moi j'avais fait ces petits jeux de mots, mathématiques, ta thématique, sa thématique. C'est cette idée de s'approprier le monde. J'ai l'impression que tous ces gens-là parlaient de ça.
Je pense que la plupart des désirs qui jaillissent d'un corps humain sont des désirs qui sont très névrotiques, à savoir qu'on désire être aimé. Voilà. Donc il faut savoir, quand on se met à écrire des phrases, il faut savoir par qui on a envie d'être aimé, ce qui n'est pas du tout évident. Je pense qu'à la manière dont on désire être aimé se mesure la qualité de ce qu'on écrit. Donc il s'agit d'être très clair, et ça c'est une véritable question d'une avant-garde à venir. Par qui est-ce qu'on désire être aimé ?
Années 80, les brûlures et la survie. La révolution révolue. Avec Jacques Rancière, Yannick Hennel, François Mironis, Patrick Bouvet, Éric Azan, Anne-James Chaton, Philippe Solers, Christophe Fiat, Emmanuel Rabu, Jacques Henric, Sylvain Courtou, Bernard Hatzek, Ramucho Mata. Avec les voix de Pier Paolo Pasolini, William Burrow, Jean Baudrillard, Andy Warhol, Félix Gattari. Texte lu Juliette Pied de Vache. Playlist Velvet Underground, Télévision, Nico, David Lynch. Film La maman et la putain de Jean Eustache, Les amants réguliers de Philippe Garrel. Mixage Julien Douminc, Après l'avant-garde, réalisation Céline Terce, par Yann Siré. Demain, troisième et dernier épisode, Pop Poésie, performance américaine. She